Daniel chapitre 3, nous verrons ce matin les versets 1 à 18, la statue de Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 3, je ferai la lecture du texte selon les points ce matin pour gagner un petit peu de temps. Disons qu'il y a deux versets plus particulièrement sur lesquels j'aimerais qu'on puisse réfléchir, non seulement ce matin, mais dans la semaine qui vient, les versets 17 et 18. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Le chapitre 3 est lié directement à celui qui précède. Le chapitre 3, bien sûr, du livre de Daniel. On ne sait pas quand les événements ont lieu exactement. Est-ce tôt après ceux qui nous sont relatés au chapitre 2, plus tard? Certains pensent que peut-être que Nebuchadnezzar va agir comme il l'a fait ici, après la chute de Jérusalem, croyant avoir ainsi renversé peut-être même justement les décrets de Dieu en lui-même pour imposer les siens. On n'est pas certain, ce n'est pas une nécessité de savoir cela. Ce qui est important, c'est de bien saisir de quoi il s'agit. Et c'est intéressant parce que, bien sûr, lorsqu'on parle du livre de Daniel, n'est-ce pas, souvent on a en tête là la prophétie, l'eschatologie, les choses de la fin des temps, l'apocalypse, hein, on parle d'une littérature apocalyptique, du moins. C'est pas exactement ça. Ça dépend comment, qu'est-ce qu'on veut dire par le terme. Quoi qu'il en soit, ça parle beaucoup de, hein, on a les visions, les bêtes, etc., etc. Mais n'est-ce pas intéressant que ces prophéties nous sont relatées à travers une histoire. Et notamment, il y a question ici de fidélité à Dieu au sein des difficultés. C'est intéressant. Je pense qu'une des choses qu'on peut faire ressortir de cela, c'est que non seulement il faut s'intéresser à la prophétie biblique, mais il ne faut pas que cela nous amène justement à délaisser nos responsabilités quotidiennes. C'est tellement facile de tomber dans ce piège-là, ce que j'appelle la fièvre apocalyptique. Hein? Et c'est vrai pour d'autres doctrines aussi, l'importance de demeurer balancé dans notre compréhension des Écritures, hein? Pour ne pas chavirer d'un côté ou de l'autre, pour ne pas boiter littéralement dans notre vie chrétienne, mais pouvoir avancer comme il se doit, être bien balancé. De là l'importance aussi de lire la parole de Dieu dans son entier, même si on ne comprend pas tout. Je sais que certains débutent dans la vie chrétienne. Ouvrir la Bible, c'est littéralement découvrir un monde qui nous est inconnu. Des peuples, des histoires, des événements, hein, des mots, des termes, hein, qui nous sont complètement nouveaux, des concepts, hein, dont on n'a jamais entendu parler, mais rappelons-nous que c'est le livre de Dieu, inspiré. C'est une parole qui nous est adressée et par laquelle nos intelligences sont renouvelées, par laquelle on découvre qui est Dieu, qui nous sommes, quelle est la raison des problèmes qui nous affligent présentement et quelle est la solution. Premier point, il nous est dit que Nebuchadnezzar a fait ériger une immense statue, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Alors, comme je disais, le chapitre 3 est lié directement à celui qui précède. Et qu'est-ce qu'on a vu dans celui qui précède? Eh bien, c'est que Nebuchadnezzar a reçu un songe, alors qu'il se posait des questions sur la pérennité de son règne, de son royaume, de son empire. Mais et là, il a vu que, en fait, son empire allait passer pour laisser place à un deuxième, puis celui-ci aussi va devoir laisser la place à un autre, puis à un quatrième. Et alors Dieu lui-même va établir, sans la main d'aucun homme, son propre royaume, qui lui ne passera jamais. Alors l'idée, bien sûr, c'est que le royaume de Babylone va passer. Il ne durera point. Cependant, il a été, dans ce songe, hein, dans cette statue donc Nebuchadnezzar a vu qui dans lequel il a vu littéralement l'histoire, hein, en fait des empires qui vont se succéder en rapport avec le peuple d'Israël, plus particulièrement le royaume de Dieu. Eh bien, l'empire de Babylone était représenté par une tête, la tête était d'or, et ça lui est certainement, sans faire un mauvais jeu de mots, resté dans la tête. On a vu aussi que la suite, donc, de l'explication, non seulement de l'explication, mais à la suite du fait que Daniel a donné le contenu du rêve, du songe à Nebuchadnezzar, on a vu que Nebuchadnezzar refusait de dire ce qu'il avait vu, parce qu'il voulait s'assurer que ses sages, ses astrologues, les chaldéens, les magiciens, ne lui racontent pas des sornettes. Il voulait s'assurer qu'ils allaient, parce qu'il était tellement imprégné, tellement par ce songe-là qui venait de Dieu, il était terrifié par ce songe-là, et il voulait s'assurer qu'on allait lui dire la vérité. Alors, Daniel, on a vu que même comme les sages étaient dans l'impossibilité de faire cela, il a décrété leur mise à mort en disant que c'était bien sûr des falsificateurs, des menteurs. Daniel a prié, le Dieu des cieux, le Seigneur lui a donné la révélation, parce que Dieu, c'est lui-même que, le Seigneur qui a créé toutes les circonstances en vue de glorifier son nom. Daniel, donc, donne au roi le contenu du rêve et son explication. Réaction de Nebuchadnezzar, l'homme le plus puissant de son époque, un monarque absolu, pratiquement. Hein? Le grand rêve de certains rois de France, il y a plusieurs, quelques siècles de cela, ce qu'on appelle l'absolutisme royal, où on voulait que le roi vraiment soit, ait tous les pouvoirs. Ça n'a jamais arrivé en tant que tel, n'est-ce pas? Mais c'est une espèce de rêve. Bien, Nebuchadnezzar était très, très proche de cela, sinon il l'a atteint. Quoi qu'il en soit, ça a été la stupéfaction pour la cour royale de voir le roi se prosterner devant Daniel, un juif qui n'adorait pas ses dieux, pour l'encenser, le couvrir de présents et l'élever à la plus haute fonction de l'Empire. Et à la demande de Daniel, ses trois amis vont aussi recevoir donc aussi de très hautes fonctions à ses côtés. Ils vont le seconder dans tout cela. Maintenant, cette confession de Nebuchadnezzar n'était que superficielle. Il ne suffit pas de confesser le nom de Dieu, le nom de Christ. Bien des gens l'ont fait et le font encore. Faisons très attention. Très attention. Il ne suffit pas que quelqu'un confesse le nom de Dieu et même manifeste de grandes émotions. Nebuchadnezzar a été vraiment touché. Il a été ému, il a été bouleversé, mais il ne s'est jamais converti au vrai Dieu. Sa conception de Dieu est demeurée celle d'un idolâtre, c'est-à-dire qui ne peut se soustraire à accepter la parfaite seigneurie et la souveraineté du Très-Haut. On reconnaît, il n'a pas eu le choix, il a plié les genoux, mais son cœur ne s'est pas converti. Faisons attention, lorsque des gens nous disent connaître Dieu, quoi que ce soit, de prendre le temps de discerner, de vérifier, n'est-ce pas? Le roi de Babylone croit au contraire pouvoir soumettre la volonté divine à la sienne, et c'est le propre de l'homme pécheur. Même s'il a été baptisé, que ce soit par immersion ou quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas? Même s'il professe la foi, etc., si quelqu'un n'est pas vraiment converti, si quelqu'un n'est pas passé par une véritable repentance, la métanoïa, ce changement extrêmement profond de mentalité, de pensée, d'attitude intérieure, n'a pas reconnu Dieu pour ce qu'il est réellement, est-ce que le verdict de Dieu sur sa propre vie comme pécheur, n'a pas reconnu qu'il n'y a pas d'autre solution possible pour son salut que dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, du sacrifice que celui-ci a offert, cette personne n'a pas cédé son cœur à Dieu. J'en profiterai pour dire, vous savez, on a des baptêmes qui s'en viennent par la grâce du Seigneur. Lors de baptême, ce n'est pas la place pour applaudir, c'est la place pour écouter. Et si on veut vraiment applaudir, on va le faire comment? En entourant les gens qui se font baptiser, en priant pour eux, en prenant soin d'eux. Nous avons vu par le passé des gens être applaudis, trois semaines après, ils n'étaient plus avec nous. Il y a parfois une forme de superficialité là-dedans. Il ne suffit pas que quelqu'un confesse, même si ça semble tout à fait potable. Il faut voir les fruits. Il faut voir les fruits. Hein? Et les fruits, nous les voyons avec le temps. Nous nous réjouissons. Il faut nous réjouir si quelqu'un professe le nom de Christ. Il ne faut pas mettre de barrière à ces gens-là, mais nous ne connaissons pas les cœurs. Je ne parle pas pour les gens qui vont se faire baptiser bientôt dans ce sens-là, mais en général, tout simplement. Donc, à la statue que Dieu a montrée en songe à Nebuchadnezzar, celui-ci va opposer la sienne. C'est pour ça que j'ai intitulé le message « La statue de Nebuchadnezzar ». Alors, il va faire érigé une statue gigantesque d'une hauteur, d'environ 30 mètres de haut et d'une largeur d'environ 3 mètres. On dirait 90 pieds de haut, 9 pieds de large environ. Ça semble démesuré, mais on a retrouvé des statues qui avaient de telles dimensions dans l'ancienne Babylonie. Il l'a fait dresser, ce géant, donc, dans la vallée de Dura, située dans la province de Babylone, un lieu servant probablement comme un vaste amphithéâtre naturel et qui permettait justement à la statue d'être vue de loin, d'autant plus qu'elle était tout en or. On pense qu'elle était recouverte d'or parce que ça a pris une quantité phénoménale d'or pour faire une telle statue. Elle était probablement juste recouverte. C'était déjà beaucoup. Ça a dû coûter extrêmement cher, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais le fait d'être ainsi recouverte d'or, en plus, devait la rendre encore plus visible de loin. Et alors que le songe que Nebuchadnezzar a vu montrait que seule la tête, que Babylone était la tête et que la tête était d'or, maintenant, la statue au complet est d'or. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar est en train de nous dire ici? C'est qu'il croit et qu'il affirme que son royaume va subsister, qu'il n'aura rien d'éphémère. Il va subsister dans le temps. Et bien sûr, cela va à l'encontre de ce que Dieu a lui-même affirmé. Alors, il a certes accepté l'idée qu'il était la tête d'or, mais il rejette le reste de la révélation divine. Il y a bien des gens qui font ça. Parfois, même lorsqu'on les approche avec la parole de Dieu, ils vont accepter certaines données de l'Écriture et vont rejeter le reste. Vous savez, lorsqu'on devient chrétien, on n'accepte pas une partie de la Bible, on accepte toute la parole. Non pas qu'on comprend tout, bien sûr, mais nous reconnaissons que c'est la parole de Dieu et qu'elle a une autorité sur nous. Et que ce n'est pas à nous de décider ce qui est acceptable ou non, mais nous acceptons avec humilité tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a déclaré, tout ce que Dieu a révélé. En ce faisant, d'ailleurs, Nebuchadnezzar révèle bien ce qui est dans son cœur, et cela nous est démontré dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 47, les versets 7 à 9. Je vous en fais la lecture. Alors, Ésaïe, ici, en fait, c'est le Seigneur qui nous parle de l'esprit de Babylone et de Nebuchadnezzar. Esprit qui subsiste dans le temps, parce qu'on a vu que Babylone est un peu le prototype des sociétés humaines sans Dieu. Tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assis avec assurance et qui dit dans ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve. Je ne serai jamais privé d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement au même jour. La privation d'enfant et le veuvage, elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Et je rappelle que ces textes-là font non seulement référence à l'ancienne Babylone, mais on sait que prophétiquement, ils nous parlent du système mondain. Présent, qui un jour va justement cesser, va prendre fin par le jugement divin. Tout ce qui n'est pas en Christ Jésus est appelé à disparaître. Maintenant, que représentait la statue de Nebuchadnezzar? On ne le sait pas. Certains pensent qu'il s'agissait d'une divinité babylonienne, probablement Marduk ou Bel. D'autres, peut-être qu'elle représentait le monarque lui-même. On sait que les rois assyriens sont connus donc à cet effet. Dans le cas ou dans l'autre, le but visé reste le même. Quel est le but? Glorifier Nebuchadnezzar et son règne, donc le glorifier lui son règne, et assurer la pérennité de ceux-ci, de les immortaliser. C'est quelque chose qu'on voit tout au long de l'histoire, les grands de ce monde, et notamment les dictateurs ont fait ériger toutes sortes de monuments, pas nécessairement qu'ils les représentaient, mais le but c'était d'immortaliser leur gloire personnelle, leur empire, ce qu'ils ont bâti. Et Ian Duguid nous dit d'ailleurs, souligne de façon très très pertinemment, que dans le texte qui est devant nous, à plusieurs reprises, l'accent est mis sur le fait que c'est Nebuchadnezzar qui a élevé la statue. Ça nous dit, on va lire la suite tout à l'heure, là. Ben, c'est quelque chose qui revient constamment. La statue qu'a élevée Nebuchadnezzar. l'accent est mis sur Nébuchadnezzar, notre roi, le grand roi, le monarque absolu, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, a élevé cette statue, c'est lui. Hein? Et là, on voit encore une fois qui est le maître, même de son Dieu, si c'était une divinité, c'est Nébuchadnezzar. Et cela est en contraste avec la parole que Daniel lui avait déclarée au chapitre 2, au verset 21, lorsqu'il a dit que c'est Dieu qui renverse et établit les rois. Le verbe établir ici, c'est le même que celui qui est traduit un peu plus dans le chapitre 3 par élever. Alors, Dieu est celui qui renverse et qui élève les rois. C'est Dieu qui le fait. Il renverse et il élève qui veut, mais Nébuchadnezzar, lui, a élevé son Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist. En ce faisant, bien sûr, Nébuchadnezzar défie le Dieu suprême devant lequel il s'est prosterné. Et ce Dieu-là, parodiant donc la chute de Babylone, dans le livre toujours du prophète Ésaïe, décrit celui-ci de cette manière. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Ésaïe chapitre 14, les versets 13 et 14. Voici ce que le roi de Babylone avait dans son cœur. « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Le rêve de l'humanité, n'est-ce pas, et tout particulièrement des grands dictateurs de ce monde, des antéchrists, de ceux qui veulent se défier eux-mêmes. « Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » C'est la puissance de l'antéchrist qui est à l'œuvre au sein du royaume de Babylone, que Dieu, bien sûr, va restreindre parce que le temps n'est pas encore venu. Deuxième point maintenant, Nébuchadnezzar oblige tous ses sujets, sans exception, à adorer sa statue. Ce sont les versets 2 à 7. Le roi Nébuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nébuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nébuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nébuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de la psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez, vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nébuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent, adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nébuchadnezzar. » Alors, le but de Nébuchadnezzar, son objectif, c'est non seulement de proclamer sa grandeur personnelle et la grandeur de son règne, mais c'est aussi de consolider son pouvoir, c'est d'unifier son royaume pour en faire un ensemble monolithique, bien sûr autour de sa personne. On parle même du culte de la personnalité ici, qui est en renouveau même, de plus en plus même en Occident. Un peu partout dans le monde, mais même en Occident, notamment aux États-Unis. Pour arriver à ses fins, donc, il fait convoquer donc les officiers de toutes les provinces du royaume, afin que ceux-ci assistent en tant que représentants des populations locales sur lesquelles ils ont été établis, donc, afin qu'ils assistent à la dédicace de la statue. Plus encore, Nébuchadnezzar fait promulguer un décret auquel tous ses sujets doivent se soumettre sous peine de mort. Ce décret stipule qu'au moment où les musiciens présents feront entendre le son de leurs instruments, que tous, sans exception, devront se prosterner, adorer la statue d'or. Le châtiment couru pour ceux qui refuseront d'obtempérer à ce décret sera d'être immédiatement jetés vivants dans une fournaise ardente. Grande fournaise probablement qui servait à faire cuire des briques. C'est là le propre, bien sûr, de tout régime totalitaire, d'établir des symboles ou des figures représentatives, des symboles, des figures représentatives du pouvoir et de son idéologie, de sa religion ou encore de sa religion, devant lesquelles tous doivent sans exception ployer le genou, où l'on désire rendre captifs les âmes et les consciences, les soumettre à une néfaste servitude. On parle de symboles. J'ai toujours été frappé par le tombeau de Lénine, hein, dans un pays, une nation dite athée, où Staline a bien compris le besoin de culte. Hein, et parce que le corps de Lénine, qui était expo, qui l'est encore d'ailleurs, n'est-ce pas, a servi littéralement de culte, hein, pour chercher à unifier l'ancienne URSS autour de celui donc qui en est le bâtisseur premier. Et c'est une forme d'idolâtrie. Hein. Alors, bien sûr, ceux et celles qui refusent de coopérer donc dans de tels régimes sont considérés alors comme des ennemis, des traîtres de la nation, des sujets subversifs contre lesquels il nous faut sévir. Vous savez qu'une telle servitude idolâtre, c'est de l'idolâtrie, n'est-ce pas, se manifeste aussi au sein de ce qui porte le nom d'Église, bien souvent. Dans toute l'histoire, on voit cela et encore, et cela est dû malheureusement au manque de maturité spirituelle d'un très grand nombre de ses membres, pour ne pas dire l'absence de vie spirituelle de ceux qui professent appartenir au Christ. On accepte, n'est-ce pas, de se laisser asservir par des hommes. En fait, on suit plus l'homme que Dieu lui-même. Ce qui nous frappe, ce qui frappe le regard, voilà ce qui nous attire au sein de l'Église du Christ, ce qui frappe l'essence, n'est-ce pas, au lieu d'offrir à Dieu un culte en esprit et vérité avec tous les dangers que cela représente. Rappelons-nous qu'un véritable enseignement biblique, ce que Paul appelle la sainte doctrine, ne frappe pas premièrement les émotions, mais crée la piété, la crainte de Dieu, le désir de servir celui-ci, le désir de lui obéir, l'amour de la vérité. Voilà ce que crée un véritable enseignement. Et pour que les croyants puissent saisir cela, ne pas se laisser séduire, justement, il faut qu'ils grandissent dans leur foi, il faut qu'ils deviennent des adultes. On parle de maturité. Ce n'est pas une simple possibilité qui nous est offerte, c'est une nécessité, frères et sœurs. L'apôtre Paul nous parle de ceux qui sont emportés à tout vent de doctrine, justement parce qu'ils sont encore des enfants en Christ. Ils entendent une chose, ils se régalent de cela, ils entendent une autre chose, parfois le contraire, ils se régalent de cela. Emportés à tout vent de doctrine. Le seul moyen d'échapper à ce danger-là, à ce piège-là, c'est de grandir. C'est la maturité, devenir des adultes. Des adultes ne veut pas dire que nous sommes parfaits, mais que nous avons quand même atteint une bonne compréhension des choses divines. Une bonne compréhension de la sainte doctrine, de ce qu'est l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas une simple émotion. C'est une vérité concrète. Il n'y a rien d'abstrait là-dedans. C'est plus que subjectif, c'est objectif. On ne reçoit pas l'Évangile seulement parce que ça nous plaît. On reçoit l'Évangile parce que c'est la vérité. Notons que Nebuchadnezzar ne demande pas à personne de renoncer à ses dieux ou à sa religion. Intéressant, hein? Ce qu'il demande, c'est de se prosterner et d'adorer son idole, ce qui, bien sûr, n'était pas un problème en soi dans un monde où régnait le polythéisme, c'est-à-dire là où on rendait un culte à différentes divinités. Bon, le roi nous demande cela. Peut-être qu'on n'était pas d'accord avec lui, mais on se disait, bon, qu'importe, on va se prosterner devant son roi, puis on va avoir la paix après cela. D'autant plus que l'argument était légèrement, comment dirais-je, corsé, hein, à savoir de se faire, sinon on se faisait jeter dans une fournaise ardente. C'est pourquoi il nous est dit que la foule présente s'est prosternée, hein, comme un seul homme, devant la statue d'or lorsque les instruments de musique se sont fait entendre. Néanmoins, ce qui était possible pour des idolâtres, des polythéistes, ne l'était pas pour les serviteurs du vrai Dieu. Exode chapitre 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Le temps passe vite, mais je pense qu'il vaut la peine de tourner aussi en Exode au chapitre 20 pour lire les versets 4 à 6. Nous parlons ici, je rappelle donc, Au chapitre 20 du livre de l'Exode, nous avons le décalogue, les 10 paroles de la loi, qui est en fait le résumé de la loi morale que Dieu avait inscrite dans le cœur de l'homme avant la chute et qu'il a réitéré, donc, lorsqu'il a fait sortir son peuple d'Égypte au mont Sinaï, afin que l'homme puisse connaître à nouveau ce qu'est la volonté de Dieu à son égard, ce qui est juste, ce qui est droit. Bien sûr, c'est cette loi-là que Dieu a inscrite dans nos cœurs lorsqu'il nous a régénérés. Non pas qu'elle l'est encore parfaitement, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Et au chapitre 20 du livre de l'Exode, verset 3, il nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Verset 4, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mes générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ces derniers mots nous montrent toute l'importance de ce commandement-là, à quel point c'est sérieux devant Dieu. C'est ce qu'on appelle ici, dans la théologie réformée, former le principe régulateur du culte d'adoration, à savoir qu'on ne devrait introduire dans le culte d'adoration rien que ce qui est exprimé positivement dans les Écritures. Ce n'est pas toujours facile de faire le pour et le contre, de bien comprendre, mais le principe est d'une importance capitale. Ne rien innover par nous-mêmes, ce qui est le propre de l'Église depuis des siècles. L'Église romaine, entre autres, avec ses images, ses icônes. Bien sûr, il y a toute une interprétation qu'on fait ici de ces versets-là, n'est-ce pas, pour nous dire qu'on n'est plus dans la même alliance, etc., etc. Mais c'est, nous avons ici l'expression de la loi morale, et en fait, Christ lui-même renouvelle cela lorsqu'il dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit et vérité. Quoi qu'il en soit, il y a une défense expresse d'avoir d'autres dieux devant la face de celui-ci, et de se faire quelque image que ce soit ou de se prosterner devant elle. Dieu ne peut être représenté parce que Dieu est de nature infinie. Dieu doit être adoré en esprit et vérité. On cherche toutes sortes de moyens de l'adorer, mais le seul moyen de l'adorer, c'est par la grâce de l'Esprit, lorsque nos cœurs sont nourris de sa parole. Notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté aussi par l'ennemi de passer outre le chemin de la croix pour recevoir les royaumes de ce monde et leur gloire. Lors de sa tentation, chapitre 4 de l'Évangile de Matthieu, il nous est dit que Satan lui a dit « Prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous ces royaumes. » Il lui a montré tout, il l'a amené sur le haut d'une montagne, il lui a dit « Montrez tous les royaumes dans une vision probablement. » Il lui a dit « Tu vois, tout cela est à toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de plier le genou devant moi. » La réponse du Seigneur, ça a été « Arrière de moi, Satan. » Il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul et tu le serviras lui seul. Aucun autre Dieu. » Troisième point, versets 8 à 15. Shadrach, Meshach et Abednego défient l'ordre du roi, car ils étaient des serviteurs du Dieu suprême, du seul et unique Dieu, du Dieu d'Israël. C'était là une impossibilité pour eux d'obtempérer à son ordre. Versets 8 à 15, donc, « À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent, accusèrent les Juifs. » Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendaient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas, ne l'adorerait pas, serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, et ne servent pas tes dieux, et n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ?» Encore une fois, que j'ai élevé. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion et de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'est pas menaçant, ça. Le but n'est pas de décourager. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il est sûr de lui, hein? Une grande assurance. Donc, au sein de la multitude prosternée devant la statue du roi, au sein de laquelle il devait y avoir même des Juifs, puisqu'il y avait des représentants de tout leur royaume, il devait y avoir des officiers donc qui venaient probablement de la Judée aussi, n'est-ce pas? Shadrach, Meshach et Abednego, les compagnons de Daniel, hommes pieux et craignant Dieu, refusent de plier le genou devant l'idole. Tout cela aurait passé inaperçu aux yeux du roi, n'eût été la malveillance des Chaldéens, qui représentaient tous les autres sages. Car c'est par pure malveillance et par jalousie, par opportunisme, que ceux-ci s'adressent comme ils le font au souverain. Ils voient, dans les circonstances présentes, l'occasion rêvée pour se débarrasser de ces Judéens qui ont été élevés au-dessus d'eux. Ils veulent reprendre le pouvoir, la place. Le verbe « accusèrent » qui est employé au verset 8, traduit l'expression « manger les morceaux de viande arrachés au corps de quelqu'un », dans le sens de médire, de diffamer, d'accuser de façon malicieuse, mais même avec une grande méchanceté. Ils désirent leur perte. Hein? Manger les morceaux de la viande arrachés au corps de quelqu'un. Une belle définition pour la médisance. Hein? Ça devrait pas mettre un frein à notre bouche. C'est ce que nous faisons lorsque nous médisons, diffamons de quelqu'un d'autre. Ces hommes sont semblables à Caïn. Ils gringent des dents, ils ne peuvent supporter la probité et l'honnêteté de ces trois Juifs qui n'adorent pas leur Dieu, qui recherchent le bien d'autrui et tout ce qui est juste. On sait que Caïn tue son frère parce que ce dernier était juste et qu'il le condamnait par ses actions. Daniel n'est pas mentionné ici, on ne sait pas pourquoi. Probablement qu'il était à l'extérieur, qu'il avait été appelé pour les choses du royaume dans une autre région, qu'il a échappé donc à cette épreuve. Maintenant, à l'écoute des propos des Chaldéens, le roi entre dans une très grande colère. Il nous est dit qu'il était irrité et furieux. Il convoque donc nos trois compagnons et il veut s'assurer qu'ils ont agi de façon volontaire, délibérée. Il leur offre une dernière chance, leur disant bien sûr que s'ils refusent, ils seront maintenant sans tarder jetés dans une fournaise ardente. Ce sera illico. Ils vont subir le châtiment qui avait été annoncé. Et, comme je l'ai dit, pour ajouter à tout cela, il leur déclare « Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Il devait être menaçant. Il devait être rouge comme une tomate, entouré de tous ses hommes, n'est-ce pas? Il y avait des soldats. Il y a la foule immense autour. On a trois témoins de la vérité face à tout cela. Seul, au milieu de la multitude. Bien sûr, ils n'étaient pas seuls. Leur Dieu était avec eux. Verset 18. On termine avec le quatrième point. Shadrach, Meshach et Abednego sont prêts à mourir pour leur Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô Dieu. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. » Ça a dû le mettre légèrement plus en colère encore. Hein? Nos trois compagnons démontrent une grande, pour ne pas dire une noble fermeté dans la foi. Avec beaucoup de respect, ils répondent au monarque, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Ils ne se perdent pas dans une vaine tentative de se défendre comme s'ils avaient s'excuser de leur comportement. Ils n'ont pas besoin d'apporter quelques explications qui soient. Le roi sait ces gens le servent. Le roi a entendu parler de leur Dieu. Il connaît la raison pour laquelle ils ne peuvent plier les genoux devant l'idole. Plutôt, comme le fera plus tard le Sauveur devant Pilate, ils confessent avec une grande dignité la vérité ainsi que leur attachement indéfectible, leur allégeance inconditionnelle à celle-ci. Tournez rapidement avec moi dans 1 Timothée chapitre 6, versets 13 à 16. Où l'apôtre encourage Timothée à continuer justement à prêcher la vérité de l'Évangile malgré les difficultés qu'il vit, malgré la pression extraordinaire, même au sein de l'Église, de trafiquer un tant soit peu ce message, de le mettre au goût du jour, ce qui voulait certainement dire aussi de mettre le culte au goût du jour. L'apôtre décrira Timothée, 1 Timothée chapitre 6, verset 13 à 16, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, ce qui l'a conduit bien sûr à la croix, de garder le commandement de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux, le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Nous l'avons lu ce matin, mais dans l'évangile de Luc aussi, les mêmes paroles nous sont rapportées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il nous dit que, je vous dis donc, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Nos amis ici ont bien compris l'importance de confesser la vérité et de ne pas trahir leur Dieu. Lorsqu'ils disent « Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. » Bien sûr, ici, Shadrach, Meshach et Abednego n'ont aucun doute sur la capacité de Dieu à les délivrer. Dieu est tout-puissant. Ce qu'ils disent au roi, c'est que si notre Dieu ne veut pas nous délivrer, si sa volonté, c'est que nous périons dans la fournaise, eh bien, nous l'acceptons. Nous n'obéirons pas à ton décret. Nous ne plierons pas les genoux devant ton idole. Aussi simple que cela, Shadrach, Meshach et Abednego préfèrent mourir que d'adorer ce qui n'est pas Dieu et ainsi perdre leurs âmes. L'auteur de l'Épître aux Hébreux de nous dire que Moïse a préféré l'opprobre de Christ que d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a préféré être du côté du peuple de Dieu qui était méprisé parce qu'il avait devant lui en vue la rémunération divine, les choses éternelles. Nos jeunes gens ici avaient une foi mature, ils voyaient dans l'invisible. Nebuchadnezzar leur demandait une loyauté sans faille, mais eux, ils savaient qu'il y a dans les cieux un grand, un roi, un monarque infiniment plus grand, qui lui aussi demande à tous les êtres humains sans exception. Lui qui est assis sur un trône de justice et de droiture, il demande à tous les êtres humains sans exception cette loyauté. C'est à lui que nous devons, avant toute chose, l'allégeance, une allégeance totale. Et comme le disait Pierre devant les autorités juives, n'est-ce pas, qui lui défendait lui et aux autres apôtres de prêcher Christ, Pierre leur a répondu, « Il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Nous cherchons à obéir aux autorités que Dieu a mis en place le plus possible, mais si celle-ci nous demande, bien sûr, de transgresser un commandement divin, nous ne le pouvons. Si celle-ci nous demande d'abandonner notre foi, nous ne le pouvons. Nous sommes liés par notre Dieu. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Quelques minutes dans la fournaise ardente, ça n'aurait pas été nécessairement drôle si Dieu nous avait protégés comme il l'a fait, comme nous allons le voir la semaine prochaine, mais ce n'est rien en comparaison d'une éternité dans les flammes éternelles. Ce que la Bible appelle l'enfer, où ceux qui vont être jetés vont être tourmentés pour l'éternité. Nous ne savons pas ce que ça veut dire exactement, ce sont des images, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est de cherchons par tous les moyens possibles d'échapper à ce lieu. Comme le dit Spurgeon, en fait, qu'ils périssent dans le feu, ou autrement, ils étaient assurés, Shadrach, Meshach et Abednego, d'être délivrés. Quel que soit le plan de Dieu, la méthode que Dieu allait employer, ils étaient persuadés que Dieu allait les délivrer. C'est pas le genre de dire aussi que si nous servons Dieu, nous servons un être omnipotent. Ça veut dire tout-puissant, à qui rien n'est impossible, et il est impossible que cet être tout-puissant, omnipotent, puisse nous abandonner au sein de l'épreuve. Il va nécessairement venir à notre secours. À l'exemple de Job, Shadrach, Meshach et Abednego ne servent pas Dieu uniquement pour les bénédictions temporelles que celui-ci leur accorde. Ils servent Dieu par amour pour sa personne, son être. Ainsi, ils le servent pour les véritables biens, ceux du royaume qui ne sont pas de ce monde. Rappelons-nous que Satan a réclamé Job en disant, il te sert parce que tu le bénis, tu lui donnes toutes sortes de bénédictions matérielles. Enlève-lui cela, il va te maudire en face. Dieu l'a permis, Job n'a pas maudit Dieu. Et puis après cela, Satan de revenir de dire, oui, mais touche à sa vie, à son corps, et là tu vas voir, il va te maudire. Dieu dit, touche-le, ne permets pas qu'il meure, mais tu peux y aller. Et là, on voit que Job a été affligé au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et malgré, bien sûr, parfois ces paroles un peu inconsidérées, ce qui demeure, c'est qu'il n'a jamais maudit Dieu. Nos hommes, nos témoins ici de la vérité ne maudissent pas Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils recherchent quelque chose de plus grand que ce que nous retrouvons dans ce monde. Ils sont semblables à cet homme dont nous a parlé le Seigneur Jésus dans la parabole de la perle de grand prix. Ayant trouvé cette perle de grand prix, inestimable, l'homme a tout vendu, tout ce qu'il avait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait qu'en acquérant cette perle-là, qu'il acquérait la plus grande richesse qui soit. En d'autres mots, il était gagnant. Celui qui accepte de mourir pour Dieu et pour Christ dans ce monde, de tout perdre, humainement parlant, pour le royaume de Dieu, est le plus grand gagnant qui soit. La perle de grand prix. Que notre Dieu nous accorde une telle fidélité dans nos vies, frères et sœurs. Notre Père, notre Dieu, encore une fois, bénis, que ton nom soit glorifié et sanctifié pour ta parole. Qui nous rappelle, notre Père, toute l'importance de confesser ton nom, de confesser la vérité, de ne pas déchoir d'une telle confession. Que d'un côté, nous sommes liés à l'obéissance des autorités, au respect de toute autorité que tu as toi-même établie. Mais qu'il y a une ligne rouge, Seigneur, qu'on ne peut d'aucune manière passer par-dessus, notre Père. Franchir. Nous ne pouvons renier ton nom, nous ne pouvons nous prosterner devant les dieux de ce monde, quel que soit le nom qu'ils prennent. Mais te demeurer fidèle. Et fidèle à ton Fils, par qui seul nous avons reçu le rachat de nos fautes et la vie éternelle. Notre Père, la tentation est grande, la séduction est grande, notre Dieu, de rationaliser, notre Père, de tels compromis dans nos vies. Donne-nous, notre Dieu, d'être vigilants. Dans un monde qui, de plus en plus, d'ailleurs, manifeste son hostilité de façon de plus en plus ouverte, face à ta parole et à tes commandements, donne-nous de demeurer debout. Nous voulons certainement te prier ce matin pour nos frères et nos sœurs qui vivent dans des pays où on exige qu'ils renoncent à leur foi, s'ils veulent continuer à vivre comme il se doit, qui sont emprisonnés, battus, bafoués, même mis à mort. Notre Père, nous te prions de venir au secours de ces frères, de ces sœurs. Dans ces régimes totalitaires, notre Dieu, nous te prions pour aussi les frères et les sœurs à Haïti, dans cette situation catastrophique, où même des croyants, Seigneur, souffrent, Seigneur, de tout cela. Nous te prions de venir à leur secours. Nous te prions de les visiter puissamment par ta grâce et ton Esprit Saint. Nous te prions, Seigneur, qu'ils soient nourris par ta parole. Nous te prions afin qu'ils puissent discerner dans l'invisible, Seigneur, ta grandeur, ta splendeur, ta souveraineté, ta sainteté. Qu'ils puissent aussi, notre Dieu, expérimenter ta bonté. Qu'ils puissent expérimenter ta bonne main sur eux. Qu'ils puissent triompher au sein de l'épreuve, sachant aussi que tu as tout pouvoir pour renverser ces autorités impies, Seigneur, selon ta volonté et ton plan, afin d'en établir de nouvelles et que ton Église puisse ainsi un peu plus respirer, notre Dieu, notre Père. Cependant, nous savons que tu as décrété d'avance que plusieurs de ceux qui t'appartiennent vont devoir souffrir et même offrir leur vie en sacrifice, Seigneur, afin de rendre témoignage à la vérité. C'est là ce que tu as prévu pour eux, de toute éternité, d'avance en Christ Jésus. Pour nous aussi, Seigneur, tu as prévu quelque chose. Nous ne savons pas quoi d'avance. Nous te prions, Seigneur, de nous garder tout simplement fidèles, de nous garder éveillés, de ne pas nous laisser séduire, mais de demeurer dans ta parole, dans une plus ferme communion avec toi. Donne-nous de rechercher la maturité. Donne-nous de ne pas demeurer des enfants en Christ, emportés à tout vent de doctrine, mus uniquement par nos émotions et non par la vérité. Non pas, bien sûr, notre Dieu, que les émotions soient mauvaises en elles-mêmes, au contraire, Seigneur, c'est toi qui nous as créés avec cela. Mais elles ont besoin d'être sanctifiées et d'être contrôlées par la grâce de l'Esprit-Saint. Nous te prions pour le renouvellement de l'intelligence, nous te prions pour l'approfondissement dans l'Évangile, nous te prions pour la faim et la soif de la justice du royaume, notre Père, que nous puissions réaliser à quel point l'éthique de ce royaume diffère de celle de ce monde, afin qu'on ne se laisse pas tromper par tout ce que nous voyons et entendons, par les illusions de ce monde, notre Dieu, que ce soit à tous les niveaux possibles, même au sein de l'Église, sachant, notre Père, qu'il n'y a de pérennité réelle que lorsque nous sommes attachés à toi, que ce n'est que ce qui est en Christ qui va subsister. Tout le reste est appelé à disparaître. Car ton royaume n'est pas de ce monde. Ce monde doit passer par le feu. Ce monde doit être purifié. Toutes les œuvres des hommes vont disparaître, sont appelées à la ruine totale. Mais celle de ton Fils, elle, va demeurer à jamais. Et ceux qui ont été recréés en lui vont aussi demeurer, car nous sommes ton ouvrage en Christ Jésus. Recrée en lui, Seigneur, pour de bonnes œuvres que tu as toi-même préparées d'avance pour nous. Donne-nous d'entrer dans ces bonnes œuvres, dans une grande humilité, notre Dieu, notre Père. J'aimerais terminer en te priant de nous éclairer un peu plus, Seigneur, sur le rôle que tu as départi aux hommes et aux femmes dans ce monde et au sein de l'Église, afin que personne ne s'enfle d'orgueil et ne mette de côté, Seigneur, sa responsabilité et ne méprise l'appel que tu as placé sur eux, notre Dieu, notre Père. Mais que, sachant que la véritable liberté pour les hommes et les femmes, c'est d'accomplir ta volonté, c'est d'être ce que tu désires que nous soyons et ne pas outrepasser ces choses, notre Dieu, notre Père, puisque ta sagesse est infiniment plus élevé que la nôtre, et que c'est lorsque nous accomplissons, Seigneur, ce qui est droit, ce qui est juste, que nous expérimentons le véritable bonheur. Garde-nous de l'orgueil. Garde-nous de ce qui frappe l'œil. Donne-nous de marcher dans la grande humilité de ton Fils, qui, lui, n'avait qu'un chemin devant lui, la croix. Le renoncement à tout. Ainsi, tu nous appelles, notre Dieu, en grandissant dans la foi, à renoncer à nous-mêmes, à nos propres plans, à notre avenir, pour nous en remettre à toi et à toi seul, sachant qu'en Christ Jésus, justement, Seigneur, tu nous as ouvert les portes de la terre promise, dans laquelle nous allons pénétrer bientôt, notre Dieu. Donne-nous de demeurer fidèles, et s'il le faut, Seigneur, fidèles jusqu'à la mort. Que ton nom soit glorifié en Christ Jésus. Amen.